La Chine est-elle devenue une menace mondiale? C'est la question qu'on pose dans le Journal de Montréal de ce matin. Une analyse de notre ami Loïc Tassé, qui connaît évidemment plus que la Chine, il y a vécu. Et il va d'ailleurs, au cours des prochains jours, signer une série d'analyses à ce sujet dans nos pages. Aujourd'hui, c'est fascinant parce que Loïc revient sur la longue histoire d'amour et de haine entre les deux antipodes, c'est-à-dire le monde occidental et ce qu'on a appelé pendant très longtemps, pendant des siècles, l'Empire du Milieu. 1972, ça a été le grand déblocage lorsque le président Nixon, à la surprise d'ailleurs de tout le monde, avait ouvert une grande porte, est allé rencontrer Mao Zedong et aussi le premier ministre Chou Enlai. Ça avait commencé d'ailleurs diplomatiquement par une rencontre de tennis de table, de ping-pong. Loïc Tassé, bonjour.
Bonjour Paul.
Oui, parce que l'ouverture s'était faite avec cette équipe américaine de ping-pong qui s'était rendue.
Oui, on avait appelé ça la diplomatie du ping-pong, c'est-à-dire que c'est là qu'on avait découvert, enfin que le public avait découvert que les Chinois étaient possibles à approcher. Et l'histoire est très très simple, c'est une équipe américaine de ping-pong qui était au Japon pour un tournoi international de ping-pong. Le hasard fait qu'elle se retrouve à jouer contre une équipe chinoise, donc une équipe de la Chine de Mao. Et il y a un joueur américain qui dit, vous savez, nous on aimerait bien aller jouer en Chine. Et comme tout était très surveillé à l'époque, ça remonte tout ça jusqu'à Mao. Et Mao dit, oui, ils peuvent venir. Et d'ailleurs là-dessus c'est très drôle parce que Mao était quelqu'un qui prenait énormément de somnifères. Il avait pris ses somnifères et les gens autour de lui lui ont fait répéter 3 fois « Est-ce que vous voulez bien que l'équipe américaine vienne jouer en Chine ?» Et oui, il a dit, enfin à peine à moitié endormi. Donc l'équipe américaine est arrivée. Et les Américains ont un peu redécouvert la Chine à ce moment-là, mais il faut dire qu'en même temps, Kissinger s'activait dans les coulisses et avait fait des voyages secrets pour que les Américains et les Chinois se rencontrent parce qu'ils avaient un ennemi commun et ils se disaient que s'ils se réunissaient pour lutter contre cet ennemi commun...
Qui était l'Union soviétique.
L'Union soviétique, ça serait beaucoup mieux pour eux et donc ça serait un problème pour l'Union soviétique. Et donc, quand le voyage est arrivé en 72, tout ça a été tenu très très secret. Ça a été un coup de tonnerre dans le monde entier parce qu'on pensait que les États-Unis et la Chine étaient des ennemis absolument irréconciliables.
Exact. Mais il faut dire que le Canada aussi a été parmi les précurseurs,
oui,
notamment le père de Justin Trudeau, Pierre-Éliott Trudeau.
Oui, il avait vu, il s'était rapproché de la Chine. Et avant ça, on avait eu la France en 64 qui s'était rapprochée aussi de la Chine. Oui. Et donc, il y avait eu quelques petits précurseurs auparavant. Mais ce qui était vraiment important, c'est que les Américains se rapprochent des Chinois. Et surtout qu'à l'époque, dans les années 60, le monde entier était persuadé que les Russes et les Chinois s'entendaient encore très bien.
Oui.
Ce qui était faux, parce qu'il y avait des accrochages militaires entre les deux, et on raconte même qu'à ce moment-là, les Russes auraient menacé les Chinois de leur envoyer une bombe atomique sur la tête.
Oui. Oh non, les relations étaient vraiment terribles, mais on avait cette impression, comme vous dites, en Occident, que les deux pays avaient pratiquement une alliance.
Ben, ils avaient une alliance, ils l'avaient conclue en 1950,
oui,
mais elle s'était défaite, elle s'était étiolée au cours des années parce que justement, les Soviétiques s'étaient rendus compte que les Chinois ne coopéraient pas, et surtout pas en matière de technologie, parce qu'entre autres choses, il y avait un missile téléguidé américain qui était tombé dans le territoire chinois, et les Chinois ont mis beaucoup de temps à remettre aux Soviétiques ce missile téléguidé que les Soviétiques voulaient évidemment examiner. Et finalement, quand ils l'ont remis, mais sans ce qui était l'élément le plus essentiel, le plus important pour les Soviétiques, c'est-à-dire tout l'appareil de téléguidage.
Ouais, ouais.
Et donc, à ce moment-là, les Soviétiques ont réalisé que les Chinois n'étaient pas de vrais alliés militaires des Soviétiques.
Loïc, vous avez vécu en Chine pendant 4 ans. J'ai trouvé désolant un moment en particulier de notre actualité cette semaine lorsque Justin Trudeau, premier ministre du Canada, a dit presque sur le ton de la contrition, nos deux avions sont rentrés de Chine vides. Il dit, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de restrictions. Hey, un instant là. Et je trouvais que ça symbolisait maintenant cette espèce de dépendance, dépendance totale envers la Chine, même en situation de pandémie, et même en tenant compte que la fameuse pandémie a eu comme point d'origine Wuhan en Chine.
Oui, 25% de tous les produits manufacturés dans le monde sont d'origine chinoise. C'est énorme. Donc, ce qui se produit, c'est que forcément, les Chinois fabriquent beaucoup de masques, beaucoup d'équipements médicaux, et c'est vrai que des pays sont en compétition. Mais il y a deux problèmes. Le premier problème, vous venez de l'évoquer, c'est qu'ils ne livrent pas le matériel et ils ne sont pas capables d'en produire suffisamment pour tout le monde en temps de crise. Il faut bien s'en rendre compte. C'est ça qui arrive. Et le deuxième problème, on l'a vu aussi dans l'actualité, c'est que les produits chinois ne sont pas nécessairement de bonne qualité. Le Canada vient de refuser 1 million de masques qui étaient fabriqués en Chine parce qu'ils ne rencontraient pas les normes. Et ici, il faut se demander ce qu'on a fait. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a permis à la Chine, c'est ce que je raconte, je mets un peu la table pour les autres articles, j'explique qu'on a permis à la Chine de prendre cette position de force parce que ça faisait notre affaire, par appât du gain, mais maintenant qu'on est en crise, ça nous pose un gros problème. On voit bien que la Chine est incapable de produire le matériel qu'il faut, qu'elle n'est pas fiable, et donc quand en temps de crise comme maintenant, on se retrouve gros gens comme devant. Et ça pose tout un problème pour l'organisation de notre industrie, je dis notre industrie au Québec, au Canada, mais dans les pays occidentaux, tout le monde fait la même réflexion. Exact. Et tout le monde se dit que la mondialisation a été beaucoup trop loin, qu'il faut revenir à une fabrication plus locale, dans certains cas peut-être plus régionale, avec d'autres démocraties, étant entendu que certains produits vont rester mondialisés, étant entendu que des matières premières, des produits agricoles vont toujours continuer à circuler à travers le monde. Mais on a été trop loin, il faut revenir à autre chose.
Je trouve particulièrement inquiétant ce chiffre de 40% de notre dépendance aux médicaments. Aux médicaments. Vous savez qu'il y a pénurie, on s'inquiète là, de certains médicaments qui servent pour la sédation. 40% de dépendance, Loïc, envers la Chine pour les médicaments.
C'est pire que ça, parce que l'autre gros pourcentage, c'est l'Inde. La Chine et l'Inde produisent presque l'ensemble des produits pour toute la planète. Et encore une fois, on a laissé faire ça parce que ça coûtait moins cher à produire là-bas. Les entreprises pharmaceutiques ont ouvert des usines là-bas pour ces raisons-là. Mais on a des gros problèmes maintenant avec ces usines-là. Et il y a même des problèmes avec les produits génériques parce que la Chine et l'Inde fabriquent des produits qui n'ont pas un degré de pureté qui rencontrent normalement les normes occidentales. Et il y a un peu un scandale là-dessous. Il y a beaucoup de problèmes avec le degré de pureté des génériques. Donc, effectivement, on a laissé faire ça. Et maintenant, quand on est en période de crise, on se retrouve dépendant face à une partie de l'industrie chinoise et de l'industrie indienne. Et on pourrait tout fabriquer ça ici. Ça coûterait un peu plus cher, c'est vrai.
Oui.
Mais je pense qu'il s'agit ici d'une industrie qui est stratégique, qui est essentielle, et qu'on ne peut pas laisser ça entre les mains d'autres pays. D'ailleurs, c'est ce que les Européens pensent aussi.
Il faut regarder maintenant du côté des autorités chinoises. Parce que Macron l'a dit, il va falloir poser les questions quand ce sera le temps. Parce que là, évidemment, faut aller au plus court et voir les effets incroyables au quotidien de cette pandémie et de ce que ça va donner aussi pour les prochaines années. Le retentissement sur le plan des finances et de l'économie mondiale sera évidemment considérable. Parlez-nous des autorités chinoises. Je sais que vous n'êtes pas à Pékin, dans l'entourage de Xi Jinping.
Non, personne.
Mais qu'est-ce que vous pensez, Loïc? Est-ce que, bon, d'abord, premièrement, on n'ira pas du côté de la conspiration et du complot. Les Chinois n'avaient aucun intérêt à foutre le bordel dans l'économie mondiale.
Non, on en avait parlé et je pense que c'est très évident. Oui.
On n'en veut pas au peuple chinois parce que, vous l'avez dit, le tribut à payer à Wuhan et dans la province d'Ubaï a été considérable, probablement.
Oui, probablement à travers toute la Chine.
Mais alors, dites-moi, Loïc, je sais que vous avez vécu 4 ans en Chine. Est-ce que vous croyez qu'à Pékin, on est sous tension, sous haute tension dans l'entourage de Xi Jinping?
Totalement. Xi Jinping est un homme qui, sous des aspects très débonnaires, est en fait un tyran. Et c'est un tyran incompétent. C'est ça qu'on est en train de découvrir. C'est un homme, la Chine était déjà centralisée, mais il a hyper centralisé les pouvoirs en Chine. Et on est en train de se rendre compte que, en fait, c'est impossible de gouverner la Chine d'une manière hyper centralisée parce que c'est trop gros, c'est trop complexe. Il faut déléguer des pouvoirs absolument. Et il y a des critiques à l'intérieur même, ça on le sait, de l'appareil communiste chinois qui s'élève en disant « arrêtez ça, ce n'est pas possible de gouverner comme ça ». Plus que ça, Xi Jinping, à travers sa lutte à la corruption, a dégommé de toutes sortes de postes importants des gens qui n'étaient pas en sa faveur, et il y a mis des alliés à lui très proches. C'est comme ça qu'il a contrôlé l'appareil du parti. Mais évidemment, il y a un ressentiment très grand à l'intérieur du parti, parmi les grands clans qui ont vu des leaders être dégommés de postes importants. Donc, il n'est pas aimé à l'intérieur même du Parti communiste chinois. Et puis, il y a toute la gestion extérieure qu'il a faite, par exemple, de Hong Kong. C'est une crise qui n'en finit plus de finir. C'est une crise qui a aussi entraîné des répercussions à Taïwan, puisque la leader indépendantiste de Taïwan était très basse dans les sondages, mais quand les Taïwanais ont vu comment les Chinois se comportaient envers Hong Kong, ben, ils ont élu réélu cette présidente indépendante. Ouais. Et puis, il y a toute l'image de la Chine qui est ternie par la gestion du coronavirus. Ça fait mal à Xi Jinping.
Et Loïc Tassé, je voyais des chiffres sur l'économie de la Chine. Vous le savez, la Chine nous a habitués à des croissances économiques qui frôlaient et même dépassaient les 10% annuellement.
Ah, c'est allé jusqu'à 15%.
Bon, voilà. Pendant des années. Là, évidemment, l'économie chinoise va se contracter de façon spectaculaire.
Oui.
Je lisais qu'il y a 30 000 petites entreprises qui ont déjà disparu depuis le début de la pandémie à Wuhan. 30 000 entreprises chinoises disparues.
C'est énorme. Et en fait, on sait que, effectivement, bon, la Chine avait un taux de croissance d'environ 6%, et on sait que le premier trimestre a été catastrophique. Ils sont en décroissance, ils sont à peu près à moins 6%, quelque chose comme ça. Donc, décroissance énorme de l'économie chinoise. Ça fait très mal, ça aussi, à l'économie. Et ça fait en sorte qu'il y a des gens instruits et éduqués qui sont dans la rue et qui ne trouvent pas d'emploi. Et ça, c'est quelque chose que le pouvoir communiste a toujours redouté. Parce que tant que les gens éduqués, qui sortent des jeunes en particulier, qui sortent des universités, ont des emplois, ben, ils ne pensent pas au pouvoir politique, ils ne pensent pas à la façon dont l'économie est organisée. Mais en ce moment, il n'y en a pas de ces emplois-là. Ça fait, encore une fois, très très mal à la Chine. Ils investissent, le gouvernement chinois, comme tous les autres gouvernements à travers le monde, investit massivement. On souhaite que ces investissements portent fruit et que l'économie redémarre véritablement. Mais c'est sûr qu'au bout de l'année, si la Chine a une économie qui est à 0% de croissance, ben ça va être beau. Mais 0% de croissance, ça veut dire, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont nouvellement diplômés qui ne trouveront pas d'emploi.
Exact. Et ou encore des travailleurs qui avaient accédé à un niveau de vie intéressant et qui ont été emportés par la disparition de leur petite entreprise.
Oui.
C'est terrible. C'est effrayant. Donc, la Chine va payer un lourd tribut de cette pandémie.
Oui, ce ne sera pas différent d'ailleurs dans le monde. Malheureusement, il y a beaucoup de pays ici même où on va avoir ce genre de problème. Parce que ce sera une chose, on a tous hâte de sortir de cette pandémie. Mais la question, c'est comment en sortira-t-on? Qui aura survécu? Quelles sont les entreprises qui vont être capables de passer à travers? En dépit de l'aide qu'on a donnée, parce que l'aide va aider beaucoup d'entreprises, mais ce ne sera pas assez pour un certain nombre d'entre elles.
Ah, c'est toujours intéressant, Loïc, mais toujours trop court, parce que je vous invite également à tourner la page, puisque Loïc Tassé va vous expliquer ce qui se passe avec le pétrole, où on a vu une... dans la page suivante, à la page 50, quelle semaine de fou dans le pétrole, où on a vu le prix du baril de pétrole tomber à moins 37 $.
Oui. Parce que ça coûtait trop cher de le stocker. On n'a jamais vu ça. C'est quelque chose d'incroyable. Mais ça pose un grave problème aux entreprises américaines parce que le prix du baril de pétrole est beaucoup trop bas pour qu'elles gardent simplement leurs installations ouvertes.
Donc,
il va falloir aider ces entreprises pétrolières. Et on entend déjà les hauts cris aux États-Unis. Comment on voulait aider les entreprises pétrolières? Oui, mais c'est 8% de l'économie américaine. C'est 6% de tous les travailleurs américains. Et c'est beaucoup des gens qui votent travaillent pour Trump, qui travaillent pour ces entreprises-là. Donc, c'est probablement quelque chose qu'il va falloir surveiller dans les semaines qui viennent, en effet.
Devra-t-on se méfier de la Chine? Deux pages avec l'œil tassé. Et j'invite les lecteurs également à vous suivre au cours des prochains jours. Merci, Loïc.
Un plaisir. Merci beaucoup, Paul.
Loïc Tassé, un document formidable, une série d'analyses. Qu'est-ce que vous voulez? La pandémie a eu pour point d'origine la Chine, c'est-à-dire Wuhan. Et je voyais ce reportage à CNN cette semaine de David Colbert, qui est un excellent journaliste américain qui est basé à Pékin. Il y a une sorte de parano, d'état parano dans la ville. Il ne pouvait pas parler à personne sur la rue. Tout le monde se sauvait. Les policiers toujours à l'intercepter pour lui demander « Qu'est-ce que vous allez poser comme question ?» Bref, on sent là qu'il y a un niveau de tension extrême, notamment à Wuhan.